Les mots s'écrivent, les mots se parlent, les mots s'écoutent.
Et d'améliorer les positions provenant.
Tu es un.
Oui, bah oui, c'est ça, sérieux.
Les mots prennent tout leur sens et deviennent une mosaïque de rubriques. Les mosaïques des vies. Votre émission hebdomadaire, tous les jeudis matins à 11h, rediffusion le dimanche suivant à 16h.
Les mots. Les mosaïques.
Les mots.
Les mosaïques.
Les mosaïques. Les mosaïques des vies.
Bonjour à tous. Avant de vous présenter mon invité, voici une citation d'Elisabeth Kübler-Ross, citation qui a toute sa place dans l'émission. Les gens sont comme des vitraux. Ils brillent tant qu'il fait soleil. Mais, quand vient l'obscurité, leur beauté n'apparaît que s'ils sont illuminés de l'intérieur. Et c'est une belle entrée en matière pour vous présenter Suzy Molina Benessa, artiste verrier vitrailliste. Alors si vous tapez son nom sur internet, vous aurez en retour une profusion de couleurs et d'éclats de lumière au travers de photos de créations artistiques autour du verre. Elle est affiliée à la Maison des artistes et adhérente aux ateliers Art de France. Suzy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à mon invitation.
Merci à vous.
Alors Suzy, parmi les différents métiers d'art liés au verre, quelles sont les différentes disciplines ?
Alors, dans le métier du verre, effectivement, on va retrouver le vitrail, qui est un élément essentiel et qu'on retrouve dans l'histoire du verre, du fait de retrouver dans le patrimoine de nombreux vitraux, dans nos monuments. Vous avez aussi, après, la dalle de verre, qui est une technique qui a commencé à exister dans les années 70. On va retrouver à peu près, dans des temps similaires, le fusing, donc, qui est une technique aussi avec des verres un peu plus épais qui, au four, vont donc à monter à une puissance plus importante, se déformer et s'incruster l'un dans l'autre. Je dirais que le vitrail reste essentiellement à travers le temps, puisqu'il existe depuis un millier d'années et puis perdure encore, voilà.
Voilà, oui, et par opposition, par exemple, le fusing, lui, étant une pratique assez récente.
Oui, puis ça reste, je dirais, un peu plus restreint à l'objet décoratif, en ce qu'on peut appeler, en le déformant, en fait, en thermoformage, en utilisant des moules concaves ou convexes. Mais il va faire partie d'une création de plus petit format et je pense que la création est plus restreinte. Pour ma part, c'est comme ça que je l'envisage.
Et pour les auditeurs intéressés par ces métiers, quelles sont les formations qui préparent par exemple à votre métier, celui de vitrailliste ?
Alors, il n'y a pas nombreux lieux de formation. On va retrouver essentiellement l'ENSAMA, qui est l'École nationale supérieure des arts et métiers appliqués, qui se trouve au rue Olivier de Serres, dans le 15e. Il y a le lycée Lucas de Néou, qui est rue des Feuillantines, aussi dans le 15e, qui prépare donc aux métiers des arts du verre et des structures verrières. On va retrouver le CERFAV, qui est une plateforme, donc un centre européen de recherche et de formation aux arts verriers, qui se trouve, lui, à Vannes-le-Châtel et qui comprend, donc, au niveau formation, des maîtres verriers de renommée européenne et qui s'adresse plutôt peut-être à des gens, à des adultes, en fait. Vous avez le Greta, quelques Greta, voilà, de la création et du design. Il y en a un dans le 10e à Paris. Il y a les ateliers de Paris qu'il ne faut pas oublier, dont moi j'ai commencé ma formation aux ateliers de Paris. Vous avez nombreux lieux. En tout cas, le siège se trouve en fait quai des Célestins dans le 9e. Et puis le Centre international du vitrail qui reste quand même un lieu d'exposition moderne, j'entends bien, parce qu'il faut faire aussi la comparaison entre le religieux et le côté décoratif, où le vitrail a pris tout son essence déjà depuis le 19e siècle. Il ne faut pas oublier qu'il faut bien dissocier ces deux côtés, en fait, le religieux et le moderne, et donc le côté architecture intérieure aujourd'hui. Donc au Centre international du vitrail, donc il y a aussi, c'est un lieu d'exposition, mais aussi de formation, voilà. Et puis quelques Greta qu'on va retrouver ici et là.
Et au niveau des diplômes, ça peut aller, je pense, du CAP jusqu'à Bac plus 5.
Alors, on retrouve effectivement le CAP Art et Options Techniques du Verre, vitrailliste. Après, on a un niveau Bac plus 2 qui est donc le brevet des métiers d'art. option décorateur. Il y a le niveau Bac plus 2 en DMA, donc diplôme des métiers d'art, art du décor architectural. Et puis le master en restaurateur du patrimoine, spécialité art du feu.
Alors, vous parliez du religieux. Effectivement, aujourd'hui, le vitrail n'est plus un art dédié à l'art religieux, mais il est entré dans nos maisons. Il s'intègre complètement aux intérieurs modernes, n'est-ce pas, Suzy ?
Tout à fait. À la base, effectivement, le vitrail restait un élément de transmission biblique. Il ne faut pas l'oublier. Il a ornementé les quantités d'édifices religieux. Alors, ça peut être effectivement dans la religion chrétienne, mais aussi hébraïque et musulmane. On retrouve à travers le monde de nombreux endroits, on peut trouver des vitraux. Donc, c'est la diffusion effectivement du message des Écritures, des Saintes Écritures. Et puis, depuis le 19e siècle, on retrouve, par le biais de l'école du mouvement de Nancy, en fait, des gens qui sont devenus, qui étaient des riches industriels, qui se sont en fait orientés vers une décoration qui n'était pas de la répétition ou en fait de la copie d'anciens dans un style bien défini, mais on rentre dans le côté décoratif, la nature, des commandes de clients bien particuliers, et on s'allie en fait à incorporer l'intérieur d'un bâtiment, d'un édifice civil. Donc ça va être les communs, les escaliers, dans un édifice. Ça va être un appartement, une séparation, ça va être un apport de lumière. Il y a aussi le côté verre qu'il ne faut pas oublier, donc l'objet, puisqu'effectivement, ces verriers, on ne peut pas citer Dôme ou Galet, qui sont les plus importants, mais ils ont intégré un élément différent. Voilà, on n'est plus dans la transmission du message biblique qui s'adressait en fait à un peuple qui ne savait ni lire ni écrire, et malheureusement, les messes étaient dites en latin.
Et autrefois, lors de l'art du religieux, c'était en plomb, la technique.
Oui, la technique du vitrail au plomb perdure, elle existe encore aujourd'hui, elle est essentiellement, moi je l'utilise quotidiennement, je fais aussi les vitraux en technique Tiffany pour le plus petit objet, parce qu'au niveau des soudures, ça reste plus fin, et puis au niveau du poids aussi, donc il y a le côté technique qui est à envisager. C'est vrai que dans ce métier, on manie le dessin, il y a le côté couleur, il y a l'élaboration de maquettes, il y a un côté minutie, côté histoire de l'art, et l'adaptation à un lieu donné, donc pour le côté commande en fait. Mais le plomb reste le côté, la technique en fait la plus durable et qui va permettre de transmettre par exemple des vitraux qui ont été incorporés dans une maison, dans un appartement, de les déposer, de les agrandir, de les rapetissir et puis de les mettre dans un autre lieu donné. D'ailleurs, c'est ce qui se faisait dans les églises. On retrouvait en fait sur les côtés ce qu'on appelle les filets de bordure, et quand effectivement la dépose était faite par un atelier ou une équipe ou autre, s'il y avait de la casse, donc on enlevait donc ces filets de bordure et qui étaient remis sur les côtés quand on remontait en fait en plomb les panneaux, et puis ça permettait donc de se réadapter en fait à un lieu donné, à une autre dimension. La technique du vitrail au plomb est complexe, mais intéressante et puis rigide, en fait. Elle peut être mise effectivement à la place d'une vitre existante, et puis vous n'avez pas ce côté froid qui va rentrer, parce que le vitrail est mastiqué, en fait.
Et par rapport à la méthode, la pratique Tiffany, quelle est la différence ?
Alors, la technique Tiffany, déjà, Tiffany, c'est un monsieur, donc c'est Louis Comfort Tiffany, donc c'était le fils de monsieur Tiffany Bijoux, entre guillemets, sur la 5e avenue à New York. C'était un riche décorateur, c'était un type qui était vraiment artiste dans l'âme, il a été peintre, il s'est intéressé, en fait, au soufflage. Il a fait plein de choses et puis...
Des lampes, notamment.
Voilà,
La fameuse lampe Tiffany.
Voilà, avant d'arriver à ça, il a travaillé avec son papa pour faire des bijoux. Il a fait aussi de l'émail. Il s'est intéressé à plein de techniques, parce que lui faisait des décors de théâtre. Et il a rencontré Eugène Delacroix sur la fin de sa vie, sous des latitudes différentes. Il s'est aperçu qu'il y avait effectivement des lumières qu'il voulait retransposer en couleur. Voilà, alors en quelle matière, il ne savait pas. Et en rentrant à New York, il a pu en fait mettre en pratique tout le côté intéressant d'être entre guillemets fille à papa, fils à papa. Mais voilà, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Simplement, il a pu créer effectivement une usine et créer donc des verres qui n'existaient pas, puisqu'on n'avait que du verre soufflé à la bouche. Donc là, qui étaient des verres qui étaient coulés, donc machine, qui n'étaient pas transparents et aussi lumineux qui laissaient passer la lumière, mais qui étaient opaques et, ou semi-opaques et qui donnaient une autre dimension en fait à la lumière et qui donnaient le côté moderne qu'on leur connaît. Ils ont été utilisés dès le 19e siècle par Jacques Rubert, qui est un maître verrier français, qui faisait partie du mouvement de l'école de Nancy. Et à partir de là, on a retrouvé donc ces verres, ces nouveaux verres, en fait, dans, on va dire, l'architecture contemporaine, dans des chambres des métiers. On va retrouver sur Nancy des choses comme ça, la maison Majorelle. On va retrouver des choses très intéressantes et ça donne une autre dimension. Et Tiffany a inventé donc cette technique qui porte son nom et qui est différente du plomb. Donc le plomb, ce sont donc des profilés dans lesquels on en chasse le verre. On rabat, on soude et on mastique recto verso. Et lui, en fait, se sert d'une... Il trouve que c'est très compliqué. Donc, en fait, il va inventer cette technique avec un cuivre qui vient s'autofixer, en fait, sur le verre de part et d'autre.
Qui est beaucoup plus rapide.
Qui est plus rapide et que c'est ce qu'utilisent effectivement donc les novices, entre guillemets, et qui permet de combler, pour ceux qui ne savent pas vraiment bien couper, donc de combler une fois que l'on soude, puisqu'on vient déposer de la soudure sur le débord de cuivre, et de faire donc des choses qui sont, comme je disais tout à l'heure, plus légères au niveau du poids, qui permettent aussi d'avoir, au premier regard, comme ce sont des petits objets donc qui sont à hauteur d'homme, ou qu'on peut prendre en main, donc d'avoir le côté soudure qui est moins prononcé. Quoique moi, j'aime bien aussi le plomb, et même sur des petites surfaces, je l'utilise aussi. Oui, ça a été une révolution, et puis les gens disent toujours « Ah, mais c'est pas du vrai vitrail !» Non, ça reste une des techniques qui est encore utilisée, voilà.
Quelles sont les difficultés de votre métier, de par votre statut et de par les contraintes du métier ?
Alors moi, je le dis, je suis affiliée à la Maison des artistes depuis octobre 2000, comme vous le disiez tout à l'heure. Déjà, c'est un statut. Ensuite...
Donc, vous n'êtes pas à la Chambre des métiers ?
Non. D'accord. Je suis pas artisan. Je ne suis pas non plus auto-entrepreneur. Ça n'existait pas à l'époque où j'ai créé mon atelier. C'est un statut bien plus récent. Les contraintes, c'est de faire de la pièce unique. Je n'ai pas droit aux séries, voilà. Je dois faire de la création, pas de la restauration. C'est vrai qu'effectivement, dans le milieu du vitrail, on entend beaucoup les gens vous demander « Mais est-ce que vous travaillez pour les églises ?» Vu le patrimoine français que l'on a, il y a effectivement 60% d'orientation de restauration. Pour ma part, je n'en fais pas. Voilà, j'ai eu cette chance dès le début. Du premier en fait salon professionnel auquel j'ai participé en 2000 où j'ai eu tout de suite derrière donc j'ai vendu des sculptures et des objets et d'avoir de la commande pour de l'agencement donc ce qui fait que je ne travaille que sur commande des portes, des panneaux pour des portes, des fenêtres, des lampes, des tables, des portes de douche, voilà tout ce qui peut m'être demandé. Le côté intéressant c'est le côté technique qu'il faut envisager donc sur le lieu donné avec des codes précises. Après il y a la partie création qui est très intéressante. Moi, je travaille sur calque à l'ancienne, donc à main levée. Je n'utilise pas du tout d'ordinateur ni de...
Et vous êtes toute seule.
Et je suis toute seule, voilà. C'est-à-dire que je fais tout. Je fais l'achat de matières premières. Je fais la recherche aussi de clientèle, en fait, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Soit dans un lieu donné, donc à mon atelier, soit le plus souvent, puisque je passe la plupart de mon temps donc, en manifestation, en salon de métier d'art, ou en louant des galeries, ou en faisant d'autres manifestations avec d'autres artistes. Voilà, la recherche de gens pour vendre en fait mes objets, mes sculptures, ou pour proposer mes services, voilà, pour de l'agencement intérieur.
Et vous avez également une contrainte qui n'est pas négligeable, c'est la manutention.
Oui, le verre reste un élément très intéressant puisqu'il est dense, il a donc un certain poids. Ensuite, il y a le plomb, vous avez le mastic. C'est vrai qu'un mètre carré de vitrail, c'est à peu près 10-12 kilos. Donc, il y a ce côté manutention. Il y a il y a le côté technique aussi, s'incorporer dans un lieu donné qui est aussi intéressant. C'est à chaque fois un challenge donné par rapport à un lieu parce qu'on habite tous dans des lieux différents. Ça peut être un appartement très sobre et très, est très conçu aux nouvelles normes comme quelque chose qui peut être réhabilité avec des hauteurs de plafond différentes, des épaisseurs de murs ou des fenêtres qui ne sont pas d'équerre. Vous allez avoir une côte en bas, une autre côte en haut. Voilà, c'est l'adaptation à un lieu donné. Mais ça reste à chaque fois quelque chose qui est différent. Et c'est ça qui fait que le métier n'est pas répétitif. Il y a beaucoup de contraintes, mais il y a le côté aussi rendu, c'est-à-dire l'échange avec la personne, transformer une idée pour la mettre en application et en création.
C'est passionnant de vous écouter, vraiment. On ne s'en lasserait pas. Nous allons donc retrouver Suzy Molina après notre pause musicale. Ce sera donc Nino Ferrer, Le Sud. À tout de suite.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années.
Million d'années. jour en été.
Nous sommes en direct avec Suzy Molina Benessa qui nous parle donc avec passion de son métier de vitrailliste. Donc, chère Suzy, quelles sont les prochaines
manifestations?
Oui, alors on y reviendra après. Par contre, j'ai vu votre CV, il est impressionnant. Vous avez vraiment de multiples compétences. Vous animez également des ateliers pédagogiques au Collège des Hautiers à Marines.
Oui, ça va faire 8 ans, là, je pense, avec cette rentrée prochaine. Ce sont des classes de 5e, c'est ce qu'on appelle des SECPA, donc souvent des enfants en difficulté, qui sont en manque de confiance. C'est un travail d'autant plus difficile que ces enfants sont un petit peu, on va dire, en insertion ou réinsertion. Voilà, il y a un travail qui est fait par une prof qui s'appelle Annick Delcus, qui est extraordinaire. Plus le temps passe, plus je la découvre. Voilà, donc c'est un travail pédagogique où on amène le côté géologie, architecture. Tout est repris donc par ses soins et puis les enfants réalisent un objet. Donc c'est la connaissance du côté matière, de la réalisation. Alors au départ, ça ne les concerne pas trop. Et puis en fait, ils s'aperçoivent que réaliser quelque chose, ça prend des dimensions extraordinaires pour eux. Et du coup, ils sont complètement emballés.
Et puis pour la valorisation de soi.
Tout à fait, parce que justement, on arrive à casser tous les codes. Moi, j'arrive, je leur dis, voilà, je ne suis pas votre prof, je suis là pour passer un moment avec vous, vous faire découvrir un matériau. Et puis, vous allez voir, vous pouvez être capable de réaliser quelque chose. Et puis, ça fonctionne.
Oui, et vous donnez également pour les adultes des cours.
Tout à fait. J'ai commencé un petit peu par hasard, donc pour la ville d'Antony, pendant de nombreuses années, donc de 2002 à 2014, donc j'étais animatrice pour adultes, voilà, donc au centre Lionel Terray, après il s'appelait Château Saran. Donc là, c'était des adultes, et puis ils viennent avec des projets, quels qu'ils soient, et puis on met en pratique, et c'est aussi un plaisir partagé, puisqu'on suis à la rencontre en fait de gens qui viennent de tous niveaux, qui ont des compétences ou pas, et puis on met tout à plat et on élabore des choses.
Et vous organisez également des stages?
Oui, j'organise des stages à mon atelier, donc à Daumont, avec des adultes, quelquefois des enfants, ça m'arrive aussi. Sinon, depuis quelques temps, donc je suis à Méry-sur-Oise, donc pour l'Amicale Laïque, donc voilà, ça va faire la 3e année cette année, donc il y a une section vitrail. Et puis, je vais commencer donc à Conflans-Sainte-Honorine à partir donc du 15 septembre, donc là, du 7 septembre.
C'est bientôt.
La rentrée prochaine, voilà. Pour tous les ateliers. Donc, un nouveau cours, voilà, c'est le CAC, c'est le cours d'art conflanais. Voilà, une nouvelle section qui va s'ouvrir. Donc, ça va être intéressant aussi, c'est un nouveau challenge. J'avais commencé déjà à faire des cours, des stages d'une journée, donc au mois de juin et au mois de juillet. Donc, il y a eu un fort succès. Donc, je suis très contente.
Et concernant ces cours, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, elles s'adressent à qui dans l'immédiat? Elles s'adresseraient à vous?
Alors non, moi je suis simplement intervenante. Par D'accord. exemple, pour Méry-sur-Oise, c'est l'Amicale Laïque, qui était une association qui fait partie de la ville. Je crois qu'il y a un millier d'adhérents. Et puis sur Conflans-Sainte-Honorine, donc c'est le CAC, c'est Cours d'art conflanais. Je vous invite ce week-end, si vous voulez me retrouver, donc samedi à l'association, le forum des associations à Conflans-Sainte-Honorine, au complexe Fichot. Et puis ce dimanche, donc je serai pour l'Amicale Laïque, donc au forum des associations, donc à Méry-sur-Oise, voilà, pour le forum, donc pour présenter et puis pour récolter de nouveaux élèves aussi, j'espère, de nouvelles rencontres.
Et vous faites plein d'autres choses, vous animez également des conférences.
Oui, ce qui m'intéresse moi dans le vitrail, c'est aussi l'histoire de l'art, parce que c'est pas simplement un mode d'expression, ce qu'il est pour moi. C'est une ou plusieurs techniques qu'on peut appliquer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans des lieux donnés et puis des architectures complètement différentes, ou faire de l'objet, ou incorporer des matières à l'intérieur comme du bois ou de la pierre ou autre chose. Voilà, y incorporer sa technique à soi et puis ses matériaux. Mais surtout, parler en fait de l'élaboration en fait de l'histoire en fait du vitrail à travers le temps, voilà, du simplement du message biblique où il a fait partie en fait des monuments et des édifices religieux jusqu'à le côté bâtiment civil et puis décoration intérieure où il va transformer en fait un lieu, il va apporter une présence, il va apporter une âme avec simplement le passage de la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Et c'est vrai que c'est un enchantement à chaque fois. Voilà, moi je sais que quand je réalise une commande pour un particulier, je vais faire la pause ou pas, ça m'arrive de ne pas la faire, eh bien, je suis à chaque fois surprise du résultat que ça peut donner par rapport donc à ce lieu. Effectivement, tout a été prévu en amont par rapport aux lumières, par rapport aux demandes en fait, du client, savoir s'il veut de la lumière, de l'opacité, s'il veut apporter de la couleur. Voilà, tout ça est prévu à l'avance, mais le résultat est toujours enchanteur.
Et justement, à propos de clients, quelles ont été jusqu'à présent les différentes demandes que vous avez eues?
Alors, ça va effectivement de la porte et de la fenêtre, je dirais classique, de la porte de douche, du panneau suspendu au-dessus d'un aquarium pour masquer une ampoule disgracieuse qui devait éclairer l'aquarium, des panneaux, pas mal de panneaux suspendus qui séparent les pièces, de portes enlevées, de mi-murs montés et puis de passages de lumière entre deux pièces. C'est de la sculpture, c'est beaucoup d'objets. C'est des choses assez intéressantes, diverses et variées, qui permettent de ne pas effectivement rendre ce métier ennuyeux. Disons que le côté technique est intéressant, le côté dessin, et puis il y a aussi la rencontre avec la personne, et puis essayer de retranscrire ce qu'il peut avoir dans sa tête, et puis de le faire, et puis de voir après dans les yeux des personnes, donc l'enchantement ou la vie qui va passer à travers donc ces couleurs dans le lieu dans lequel ils vous habitent en fait.
Et vous arrivez à vous, j'imagine que maintenant oui, vous avez beaucoup d'expérience, mais en tant qu'artiste, d'arriver à se dessaisir de sa propre création.
Oui, c'est un moment qui est très loin en fait, où on se dit mais comment se fait-il, il part avec quelque chose qui m'appartient, c'est dur, mais ça fait très longtemps. Mais maintenant non, le regard est complètement différent, dans le sens où quand quelqu'un arrive et me voit en exposition, qui voit, bon pas moi c'est pas important, mais mes objets ou mes sculptures, c'est le regard en fait de cette personne à travers ce qu'il a en face de lui, de la lumière qu'il peut y avoir à ce moment-là. Et c'est de voir ce qui se passe dans ses yeux, en fait. Le sourire qu'il peut avoir. Et puis, effectivement, s'il repart avec la pièce, ça veut dire qu'il a été, conquis. Et puis, elle va trouver un nouveau lieu. C'est ça qui est génial.
Et vous trouvez encore, malgré tout, le temps de composer vos créations personnelles.
Oui, je trouve que c'est essentiel. Le côté court, c'est juste un petit clin d'œil comme ça pour rencontrer du monde. Et puis, le côté création, c'est, je pense, le côté le plus intéressant. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une technique. Ça me permet de réaliser des choses complètement différentes les unes des autres, de mettre à la place des gens, de me dire, tiens, côté déco, comment on pourrait faire pour suspendre, pour attacher, pour apporter plus de lumière. Ça a des formes diverses et variées. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir du temps pour soi, de se mettre à dessiner, de se mettre à penser, de prendre les plaques de verre,
Quelles sont les prochaines expositions où on pourra voir vos œuvres?
Alors, les toutes prochaines, donc, ce sera donc Montfort, La Maurie, le week-end du 15 et du 16 septembre.
Voilà.
Donc, c'est le troisième salon des métiers d'art qui se trouve effectivement le même week-end que les Journées du patrimoine.
Donc, à Montfort, La Maurie.
Tout à fait, dans les Yvelines.
Dans les Yvelines.
Ensuite, je pars en Normandie, à Luc-sur-Mer.
Un petit peu plus loin.
Voilà. Avec deux comparses qui sont Jean-Luc Fouquet, qui est peintre aquarelliste, et Thierry Daniel, donc, qui est sculpteur métal. Voilà, on va investir dans la galerie du Petit Enfer, donc du 21 septembre jusqu'au jeudi, donc 27 septembre, voilà, pour une semaine. Une petite galerie très, très en face de la mer, voilà, où on investit les lieux et les trois, en fait, techniques vont se mélanger. À merveille.
Donc, à Luc-sur-Mer.
Tout à fait.
Voilà. Et vous avez déjà collaboré avec le sculpteur.
Tout à fait. Thierry Daniel, donc, qui est sculpteur métal, qui se trouve sur Argenteuil. On fait des pièces communes très régulièrement. J'expose avec lui aussi régulièrement, ainsi que Jean-Luc Fouquet. Tout à fait. Je trouve que c'est intéressant de mélanger le vitrail étant un art monumental. Il lui faut forcément un support. Si on n'a pas un châssis architectural, donc il faut lui trouver un support. Disons que le métal est un très bon élément complémentaire. Et de voir en fait que ce n'est pas que le support, mais ça fait aussi partie de la pièce et s'intègre totalement. Voilà, ça ne fait qu'une seule pièce en fait.
On pourra également vous voir au lavoir à Carrières-sur-Seine dans les Yvelines.
Tout à fait. Entre les deux, il y aura la foire de Daumont auquel je participe. Voilà, je fais partie d'une association qui s'appelle 3Arts, artisans d'art associés, qui se trouve à Daumont 64 avenue Jean Jaurès, où je partage le... ce sont des ateliers partagés. Voilà, où je partage le lieu avec d'autres artisans, artistes, mosaïstes, céramistes, designers de robes de mariée, tapissiers, bijoux. Voilà, donc il y aura ce petit week-end donc, du 29 et du 30 septembre.
En porte ouverte.
En porte ouverte, voilà, puisque la foire de Daumont n'a rien à voir avec nous, mais on se trouve sur le passage et il se trouve que le public rentre pour redécouvrir donc le lieu qui est une très belle maison, qui est la maison de la Tourelle, qui fait partie du patrimoine de la ville.
Très, très belle maison,
tout à fait, sur 3 étages. Qui date du début du siècle. Et puis ensuite, donc, je refais mes malles, puisque je passe mon temps à faire mes malles, et je pars donc à nouveau dans les Yvelines, donc à Carrières-sur-Seine, où je serai donc avec Thierry Daniel, donc le sculpteur métal, au lavoir. Voilà, donc c'est un véritable lavoir, qui est un lieu d'exposition, où il y a une partie couverte et non couverte, et puis le lavoir au milieu, voilà. Une installation encore différente.
Et si on veut vous rencontrer dans votre atelier, c'est donc à la maison de la Tourelle à Daumont.
Tout à fait, au 64 avenue Jean Jaurès à Daumont.
Voilà.
Et nous y serons, je pense, jusqu'au mois de décembre, puisque la concession prend fin, je pense, à la fin de l'année. Donc, je suis à la recherche d'un lieu, voilà, pour mon atelier. Donc, à bon entendeur, si quelqu'un...
Je ne savais pas, vous allez bientôt partir alors. D'accord.
Je pense qu'effectivement, je vais me retrouver à la fin de l'année sans lieu en fait de travail.
D'accord. Bah, écoutez, on passe l'annonce. Vous cherchez un local ou un atelier, un espace.
Un espace, voilà, où travailler, qui sera en même temps showroom.
Très bien. Eh bien, écoutez, Suzy, pour conclure l'émission, vous pouvez nous donner vos coordonnées, par le mail par exemple.
Alors, mon mail, c'est sousixblue, alors j'appelle S-U-E, le chiffre 6, B-L-U-E, @gmail.com.
Voilà, vous avez un Facebook ?
Oui, j'ai un profil pro, puisqu'il se doit d'être dans les temps et de d'informer, en fait, le public. On peut me retrouver, donc, sur Suzy Benessa, voilà, une page pro.
Très bien. Merci beaucoup, Suzy.
Merci à vous.
Merci.
Très bonne journée.
Pareillement. Au
Merci,
revoir.
Au revoir.
C'était les mosaïques des vies. Mots croisés, mots échangés, mots composés, rien que pour vous. Evie sur Alternative FM 106.5.
Les mots, les mosaïques.
Les mots, les mosaïques, les mosaïques des vies.
Écoutez Alternative FM 96.7 et 106.5.
Stop the record now at the band. Start the record at this point.